Auditeurs et auditrices des programmes du Studio Kalangou, bienvenue dans votre émission quotidienne Le Forum du Studio Kalangou, l'émission qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Les musées du Niger, défis et perspectives, c'est le thème du forum de ce soir. Un musée est un lieu, un édifice où sont réunis en vue de leur conservation et de leur présentation au public, des collections d'œuvres d'art, des biens culturels, scientifiques ou techniques, selon le dictionnaire Larousse. Au Niger, il en existe plus d'un, ainsi du musée national Boubouama de Niamey, au musée des instruments de la musique traditionnelle nigérienne, assis au centre de formation et de promotion musicale CFM Taya, en passant par des musées régionaux situés dans certaines régions du pays. La volonté du Niger de conserver son riche patrimoine ethnique et culturel s'affiche. Quelles sont les richesses qui referment ces musées du Niger? Quelles sont les principales difficultés auxquelles ces musées sont confrontés? Comment réhabiliter et rendre davantage attrayants ces musées? Pour répondre à ces questions et bien d'autres, nous avons invité M. Haladou Mamane, directeur du musée national Boubouama de Niamey, et Mahamane Lawali Garba, et il est le directeur du centre de formation et de la promotion musicale CFM Taya. Et nous avons au téléphone Mahamane Sani Abdou, qui est directeur du musée régional des Indères. Merci à vous d'avoir honoré notre invitation. Je suis Alassane Kouzi Mahamadou pour la présentation de cette émission. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce forum qui porte sur les musées du Niger. Parmi les musées du Niger figure le musée national créé le 18 décembre 1959 et qui prend le nom de musée national Boubouama en 2008 en hommage à Boubouama, ancien président de l'Assemblée nationale du Niger, également linguiste, historien, écrivain, philosophe et journaliste à l'origine de la création de ce musée. Ce musée a notamment pour mission d'assurer la formation technique et l'éducation permanente des jeunes à travers le centre éducatif et artisanal, contribuer à l'expertise de la collecte des objets muséologiques, appuyer toute personne morale dans la conception et la réalisation des musées, contribuer également à la promotion, la conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel national. Il y a aussi le musée des instruments de la musique traditionnelle nigérienne du Centre de formation et de promotion musicale CFM Taya, créé en 1995 à l'initiative du docteur Mamane Garba, dont il porte d'ailleurs le nom. Et ceci sans compter les musées régionaux, notamment ceux de Dosso et des Indères. Nous avons également au téléphone avec nous le directeur donc, du musée régional des Indères. Pour commencer, nous allons faire un tour de table. Monsieur le directeur du musée régional des Indères, Mahamane Sani Abdou, nous allons commencer avec vous. Pouvez-vous nous faire une brève présentation du musée régional des Indères?
Ok, merci beaucoup. Merci Studio Kalangou. Sans tarder, je m'en vais donc vous présenter le musée régional des Indères qui a été créé en 1987 à l'initiative du conseil régional des Indères. Et donc depuis lors, le musée est devenu une vitrine pour conserver ce qu'on a de précieux, ce précieux usage de notre passé. Donc on a une collection importante et d'instruments de musique, de matériel aratoire traditionnel que vous connaissez très bien. Nous avons une collection de costumes traditionnels.
Pouvons-nous savoir l'objectif initial de la création de ce musée régional des Indères?
C'est pour conserver, valoriser et diffuser ce qu'on a de précieux, cet héritage du passé, l'histoire du Damagaram et de la région des Indes entières. Oui, donc c'est ça. Donc on a ce précieux héritage, non seulement pour conserver l'histoire, mais aussi les objets d'art, n'est-ce pas, qui constituent en tout cas un précieux héritage Vous voyez, donc, c'est l'histoire de toute la région qui est là, conservée au niveau de notre musée régional.
Nous revenons en studio pour donner la parole à nos deux autres illustres invités. Je m'en vais tout droit avec le directeur du Musée national Boubou Hama du Niger, M. Aladou Mamman. Veuillez nous présenter brièvement le Musée national Boubou Hama. Qu'est-ce que c'est, sa date de création, la mission de sa création?
Depuis la création du musée, en tout cas, comme vous l'avez dit, qui est créé en 1959, du 8 décembre, qui correspond à la fête de la République.
Oui, au Niger.
Je crois que c'est un musée qui se veut, une sorte de mouchoir. De mouchoir qui fait, en fait, une sorte de creuset pour l'unité nationale. Comme vous constatez, en fait, ce musée est créé bien avant l'indépendance. C'est ce qui a servi à asseoir les bases d'une indépendance, d'une République. Là où il faut appeler une dizaine d'ethnies qui doivent composer, qui doivent s'aimer, qui doivent s'entraimer. Pour en fait créer un pays. Ce musée, depuis sa création, en fait, comme je l'ai dit, c'est si vous voulez, une institution, en tout cas, l'une des plus grandes institutions qui a participé, si vous voulez, à l'effort de notre République. C'est un musée, en fait, comme je le disais, un musée national qui regroupe en fait les objets culturels de l'ensemble des ethnies. Ce qui est important au Niger, c'est-à-dire à travers les musées, on a montré en fait cette diversité. On a montré en fait que c'est un instrument, un outil qui a permis. Et les Canadiens me disent que c'est le premier pays après le Mexique à avoir profité, en tout cas, de l'action du musée pour asseoir l'action gouvernementale sur le musée national de Niamey. Tout à l'heure, vous avez cité Boubou Hama.
Ouais.
Si le musée a vu le jour, c'est grâce à lui. Ouais. Parce qu'en tant que politique, en tant que président de l'Assemblée, donc, il a mis ses efforts personnels.
Ouais.
Le musée a débuté avec 10 objets seulement qui constituent la propriété de ce musée-là.
Ouais.
Aujourd'hui, le musée est une institution publique à caractère scientifique, culturel et technique.
Ouais.
Donc, vraiment bravo de voir une histoire. Comme on l'a dit, toujours derrière une histoire, il y a l'histoire d'un homme. Si les musées existent aujourd'hui, c'est grâce à l'effort soutenu de Boubou Hama qui a fait que le musée voit ce jour aujourd'hui.
Et on a vu que le musée national a passé, a eu, en tout cas dans l'histoire, quelques noms. Il fut appelé IFAN ou quelque chose comme
oui,
ça.
Oui, en fait, j'ai dit IFAN parce qu'avant, c'était l'Institut français d'Afrique noire. Parce que pendant la période coloniale, parce qu'il faut le dire de passage, que le musée était créé en 59, donc bien avant l'indépendance. Donc, et à travers le CNRS, qui est le Centre national de recherche scientifique, à travers l'IFAN, toutes les institutions en fait, de la colonisation, le musée indépendait, parce que lui, et Boubou Hama, comment dirais-je, Boubou Hama, était un homme politique, il a fait appel à un Français, Pablo Toussette, qui l'a aidé en fait, à intéresser la France à la création de ce musée. Donc c'est de l'IFAN, on est arrivé à chose, parce que seulement après l'indépendance, quand le blanc est rentré, maintenant, c'est devenu maintenant, en fait, un musée qui est entièrement consacré ou dédié à l'activité nationale, parce qu'en nommant un conservateur cette fois-ci qui est un Nigérien.
Nous donnons la parole cette fois-ci au directeur du Centre de formation et de promotion musicale, Mahamman Lawale Garba. C'est le directeur, le musée des instruments de musique traditionnelle se trouve dans le centre de formation dont vous avez la charge. Une brève présentation, l'objectif ou la mission phare de ce musée.
Nous, en ce qui nous concerne, nous avons un musée spécialisé. Pourquoi j'ai dit ceci? Parce que, tout simplement, notre musée, sa mission n'est pas seulement de promouvoir à la présentation des collections, mais c'est de veiller à l'utilisation de ces richesses culturelles. Donc, notre musée est au service des chercheurs, des étudiants et davantage des enfants qui sont les artistes et les politiciens de demain. Parce que, tout simplement, notre approche dans cette démarche, c'est de faire de l'apprentissage auprès du jeune. Parce que l'enfant doit être formaté en tant que jeune. Et l'art vivifie l'émotion, de l'intellect, les recherches, et puis encourage les enfants à devenir quelque chose dans la vie. Pour vous dire, en fait, que pour situer notre musée, il faut dire que se situe dans une volonté politique du gouvernement qui a suscité la création du Centre de formation et de promotion musicale pour rendre hommage ou bien pour mettre en application une des recommandations du séminaire sur la politique culturelle tenue à Talavera en 1985. Donc, c'est à partir de cela que le centre a été créé. Et au sein de ce centre, comme vous dites que c'est en 1995, moi, je vais un peu plus loin.
Oui.
Les musées existent avec la création du centre. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Autour de la création du centre, pour magnifier et vivifier l'instrument, le centre a créé un atelier de développement de lutherie. On a placé des luthiers qui ont performé le facteur de leur instrument Et cet atelier-là, c'est un atelier de fabrication et de vente. En même temps, un musée.
Ouais.
Parce que dans l'atelier, il y a une classification scientifique de tous les instruments dans les quatre grandes familles que nous connaissons.
Et c'est ça qui prendra forme en 1995.
C'est ça qui devient un musée qui est déjà créé.
Oui.
Mais véritablement, politiquement, c'est en 1995 que c'est installé.
Avec le concours du docteur Fait, docteur Maman.
Ah, très bien. C'est même lui qui est à l'avant-garde.
Alors, si nous rentrons un peu dans les détails, monsieur le directeur, sur les richesses aujourd'hui et patrimoine nationaux qui sont conservés dans ce musée des instruments traditionnels et des musiques.
En fait, nous avons une collection de 150 instruments de musique classés, comme je l'ai dit, selon les normes scientifiques en quatre familles. Il y a les membranophones, les cordophones, les idiophones et les aérophones. Ce qu'on appelle membranophones,
ouais,
c'est tous les instruments sur lesquels qui sont à base de membrane, qui sont plus de 2/3 plus importants, ils sont plus importants dans notre musée, puisque les membranophones au Niger, c'est une matière sur laquelle on percute pour que ça produise un son.
Oui.
Un tam-tam, un kalangu, un koso, ainsi de suite, c'est des membranophones.
Voilà.
Mais nous avons des membranophones des instruments à une membrane.
Mmh.
Il y en a deux.
Oui.
Donc, ils sont plus nombreux que les autres instruments.
J'imagine bien que vous avez un kalangu là-bas.
Des kalangous.
Bien.
Il y a les kalangous haoussa.
C'est important.
Il y a les dondon jarma.
Donc, les Nigériens qui veulent savoir d'où vient le nom kalangou ou qui veulent voir le kalangou peuvent non seulement être au studio kalangou, aller au musée des instruments traditionnels pour visiter, voir les jars de kalangou.
Bien là.
Oui, allez-y, monsieur le directeur.
Je disais donc, les aérophones, c'est tous les instruments sur lesquels on souffle pour produire du son.
Jars, les flûtes.
Les flûtes, les kakaki, les algaïta, ainsi de suite. Et les cordophones, c'est sur les instruments sur lesquels on pince sur la corde ou bien on gratte sur la corde pour produire du son.
Notamment les guitares.
Non, pas les guitares. Si tu parles des guitares en termes traditionnels, d'accord. Les molos, les gourmis, les goguets, ainsi de suite.
Ouais.
Et les idiophones, c'est sur les instruments sur lesquels rigides on percute, tels que la calebasse, tels que la castagnette. Tu connais ce que c'est la castagnette?
Je ne sais pas, monsieur.
En français, ça veut dire tchaki.
Un peu plus d'explications, mais je ne sais pas.
C'est qui,
c'est une description.
C'est les hochets, là.
Les hochets.
Qui font du bruit avec
les pour produire le son.
Non, qui produisent un son, ce n'est pas du bruit. C'est un son.
Produisent un son,
c'est de notre musical.
Voilà. Hein?
Voilà.
Donc, c'est ces quatre familles.
Et c'est ces quatre familles qu'il y a. Et en dehors de ça, nous avons une gamme de collections sonores, audio-visuelles, bibliographiques, monographiques.
Qui ont été produits par des artistes nigériens.
C'est des recherches. Mmh. Parce que nous, nous avons hérité de ce qu'on appelle les patrimoines du Centre des archives culturelles. C'est un centre qui a été créé au Niger. Et actuellement, le CFPM se trouve dans l'enceinte du bâtiment créé du centre, du feu Centre des archives culturelles.
Mmh.
Donc, toutes ces collections-là ont été versées dans les musées d'instruments traditionnels du Niger.
Mmh. Voilà, le musée des instruments traditionnels dont vous avez la charge est ouvert à quelle catégorie de personnes et selon quelle modalité?
Très bien, je vous dis que notre musée, il accueille des visiteurs dans différents domaines, des chercheurs,
ouais, des étudiants, oui.
Et notamment, notamment davantage des enfants qui seront les savants artistes de demain et d'autres qui sont avertis. Donc, nous sommes ouverts pendant les heures de service. Nous sommes en administration. La rentrée, elle n'est pas payante, elle est gratuite. Mais nous ne pouvons pas accueillir beaucoup de monde parce que le musée est petit.
Mm-hmm.
Voilà.
Donc, ça veut dire que les visites sont coordonnées,
Mais bien sûr, par exemple, si vous prenez, s'il y a une école qui vient avec 60 élèves, on ne peut pas les faire passer tous.
Mm-hmm.
On fait un planning, les fameuses questions.
Ouais.
Et puis puisque nous avons un seul chef de département musée qui est en même temps département et guide des visites.
Et j'ai entendu parler aussi de ces musées, le bâtiment qui abrite ces musées est aussi d'une construction particulière aussi.
Le traditionnel, c'est la construction des maisons sans bois.
Ouais.
Parce que nous sommes dans un pays sahélien et qu'à un certain moment, la politique gouvernementale a fait que le Niger a initié les constructions sans bois. Et donc nous avons bénéficié de cela à travers un cadre de coopération avec l'Espagne. Ils ont construit des musées entièrement en banco et de manière traditionnelle. Ça nous permet vraiment de bien conserver les instruments puisque ça s'adapte à notre température. s'adapter à notre peinture. Parce que dans les temps, avant, là, c'était dans une maison en dur, avec une toiture en tôle, et ça a altéré beaucoup d'instruments. Mais maintenant, vraiment, c'est très bien. C'est très bien conservé.
Nous passons au directeur du musée régional des Indes pour nous faire découvrir, en tout cas à l'oreille, le musée régional des Indes. Monsieur le directeur, Mohamed Sani Abdou.
Alors,
aujourd'hui, les richesses, vous avez commencé à ébaucher un peu ce que le musée régional des Indes conserve.
Absolument. Je vous ai dit que le musée régional des Indes, c'est une vitrine qui conserve tout ce qu'on a comme patrimoine culturel de la région. Et je vous ai parlé de notre collection. Nous avons une multitude de collections parce que nous disposons d'un musée pluridisciplinaire. Vous voyez ? Donc, au niveau de notre musée, donc je vous ai dit que nous avons une collection d'objets d'art. Nous avons une collection constituée donc de vanneries, de poteries, de fer forgé, du bois sculpté, tel que les mortiers, les pilons, tout ça. Nous avons une collection aussi, je disais, d'instruments de musique, tels que cités par mon collègue du musée du CFPM. Donc nous avons tous ces instruments de musique, constitué donc de cordophones, de membraphones, tels que présentés par mon collègue de Niamey. Alors, en dehors de ça, nous avons une collection aussi de costumes, parce que nos traditions, nous avons ces costumes Hausa, nous avons le costume Peul, nous avons aussi les montures de chameaux, les montures d'âne, nous avons les montures de cheval, parce que nous avons un mannequin de cheval quand même qui est bien harnaché pour montrer la beauté du cheval parce que on a la tradition du cheval au Niger. Donc surtout le cheval est trop rattaché à la chefferie traditionnelle. Donc on a valorisé le cheval au niveau du musée régional des Indes avec tout l'harnachement qu'il porte. Et en plus on a l'aspect architectural. Parce que ça fait partie du musée. Vous voyez, on a l'architecture de nos maisons traditionnelles qui montre les spécificités Hausa, les façades de maisons constituées de vestibules. Donc, c'est ce que vous pouvez retrouver sur les bâtiments présentement du pavillon de collecte du musée régional de Zender. Donc, je disais que c'est un musée pluridisciplinaire, mais la partie qui est opérationnelle, c'est surtout le pavillon de collecte qui est présentement opérationnel. Sinon, nous avons deux sites. Le site qui est opérationnel, c'est celui qui constitue l'administration même du musée, qui est là, au quartier résidentiel. Sinon, le site qui devrait contenir le musée proprement dit se trouve au niveau de l'ex-hippodrome des Indes, appelé Helium Cruz. Donc, vous voyez, c'est là où on a vraiment un projet trop ambitieux qui s'étend sur une superficie assez grande. Le projet ne pourra pas être opérationnel. Nous nous limitons juste maintenant au niveau des 6 hectares présentement clôturés.
Excusez-moi, est-ce que déjà aujourd'hui on peut se rendre à Zender et rendre visite pour voir quelques... Est-ce qu'il y a déjà un bâtiment qui abrite quelques-uns de ces instruments?
Maintenant, en tout cas, nous sommes en chantier présentement, là où je vous parle. Parce que le musée, la réhabilitation du musée est intervenue en 2018 à l'occasion de Zender Savoie. Vraiment, donc les travaux sont ajournés en ce moment. Sinon, on allait disposer d'un musée pleinement opérationnel. En tout cas, les travaux de rénovation ont commencé. Malheureusement, il y a eu un relâchement. Ce qui fait que présentement, notre pavillon de collecte, même qui constitue même le point de départ du musée, n'est pas opérationnel.
Je voulais vous poser cette question, voilà. Monsieur le directeur, par rapport aux richesses que contient le musée régional de Zender. On sait que Zender a une histoire, en tout cas, de combattants, de guerriers dont on a entendu parler. Est-ce qu'aujourd'hui... on a par exemple des matériels de guerre de certains guerriers dont on a entendu parler, genre des lances,
Absolument. Je vous ai dit que nous disposons de tous ces éléments, les lances, on a aussi les canons qui ont servi lors de la guerre de Termini. entre Amadou Kourandaga et puis les explorateurs français à qui on a opposé une résistance farouche à partir de Trémini qui constitue la porte d'entrée des explorateurs. Nous avons ces canons-là qui sont là présentement. Nous avons les instruments de guerre constitués de lances, de flèches, de bâtons aussi, vous voyez, tout ça là, ça a servi pendant la guerre contre donc les colons français.
Merci, merci. Nous revenons au studio avec le directeur du Musée national Boubou Hama, M. Aladou Mamman. Rappelez-nous les richesses du Musée national Boubou Hama, qui a aussi plusieurs catégories d'objets qui sont conservés.
Bon, en fait, comme je le disais dans l'introduction, et notre Musée national dispose aujourd'hui de 1513 objets en exposition et 2013 en réserve. Et dans l'historique, je disais que dans l'histoire d'une institution, il y a toujours l'histoire d'un homme.
Oui.
Si le musée aujourd'hui, il sait qu'il est, c'est parce que Boubou Hama, il a eu d'abord à initier avec ses 10 objets personnels qu'il a fait le lancement de ce musée national. Mm-hmm. Particulièrement, c'est une collection en fait qui renferme des objets, si vous voulez, ethnographiques, historiques, paléontologiques, les spécimens.
Oui.
En termes d'histoire, vous savez aussi la numismatique et la monnaie aussi constituent une partie du musée. Vous avez également les instruments de musique. Et nous avons, en fait, à tous ces objets, comme je disais, ethnographiques, historiques, culturels, nous avons aussi intégré un zoo, qui est quand même, pour donner un objet, si vous voulez, un aspect un peu insolite. Si le musée aujourd'hui de Niamey, en fait, a cette renommée, c'est parce que tout simplement, la partie zoo, là, intéresse tellement les jeunes.
Et apparemment, c'est cette partie zoo où on a des animaux, non ?
Tout à fait, tout à fait.
Et semble prendre même le pas, en tout cas, quand on parle dans l'idée des gens, quand on parle du musée national, c'est voir les animaux.
Si les initiateurs de ce musée ont pensé à créer, en fait, cet aspect, si vous voulez, insolite, c'est pour amener les gens en fonction de la capacité du public. Parce qu'en Afrique, généralement, les gens, quand ils vont au musée, c'est pour découvrir des merveilles. Ce n'est plus l'aspect, si vous voulez, théorique. En France, quand vous partez dans les musées, la peinture, commander les photos. Mais ici, on veut du vivant.
Oui.
Les vivants, voilà pourquoi les gens sont beaucoup plus intéressés par les animaux, qui constituent en fait un environnement curieux pour l'enfant.
Et ces zoos sont constitués notamment de
les zoos, en fait, qui disposent aujourd'hui de 73 espèces composées des mammifères. Vous avez des hippos, vous avez aussi des hyènes, vous avez des lions, vous avez des oiseaux. Donc, toute la faune africaine et même de la sous-région est intégrée au musée parce que pour les besoins du public. Parce qu'un musée, c'est vrai, il est national, mais il peut aussi entreprendre une ouverture qui lui permet de présenter la joie. Parce que c'est un environnement. Tout comme l'école, le musée aussi, c'est une institution qui s'occupe de l'éducation et une éducation permanente. Là où on va pour sauter avec quelque chose.
Alors, on dit que le musée national Boubou Hama possède une collection permanente. De quoi s'agit-il?
Bon, en fait, collection permanente, c'est-à-dire quand le musée a ce qu'on appelle une exposition temporaire. On l'expose juste pour un peu de temps, on la lève. Mais nous, en fait, compte tenu de problèmes, si vous voulez, et financiers, généralement, parce que toute exposition qui dépasse 2 mois, maintenant, elle est permanente. Les expositions, c'est d'une semaine, 3 semaines, et puis ici, c'est permanent parce qu'il y a des objets qui datent de 59. Quand vous voyez les pavillons de synthèse, les pavillons Boubou Hama, c'est un pavillon qui est monté depuis 1959. Nous, on ne fait qu'enrichir. Maintenant, avec la volonté et la disponibilité des gens, petit à petit, parce qu'un musée, c'est comme une école, on ne crée pas tous les niveaux à la fois. On crée et en fonction du temps. Maintenant, on peut ajouter selon ce qu'on a comme disponibilité.
Alors, on dit que le musée peut exposer de manière temporaire ou permanente des œuvres ou des pièces provenant d'autres collections.
C'est-à-dire, le musée peut même prêter de l'objet dans les cadres. C'est-à-dire, une collection, par exemple, du musée des Andes peut venir ici au musée des Andes pour une exposition pour un but bien précis. Une exposition peut venir de l'Irche, par exemple, les dinosaures. Le musée peut demander, par rapport à la thématique, on peut monter l'exposition pour un but déterminé. Après, on peut la plier. Mais quand c'est des objets du musée, même les objets qui sont en réserve, tout à l'heure, je vous disais, on a 1534 objets en exposition et 2013 en réserve. Donc, on peut aussi prendre dans le fond de dépôt pour faire une exposition. Parce qu'un musée qui ne fait pas d'exposition, il est statique. Et c'est statique appelé à disparaître. Voilà.
Bien. Alors, nous allons aborder la partie sur les difficultés. En tout cas, on sait que ça ne manque pas. que vivent vos musées respectifs. Nous continuons avec vous, monsieur le directeur du musée national Boubou Hamad de Niamey. Comment fonctionne aujourd'hui le musée national et avec quels moyens?
Bon, d'abord, je dois vous dire d'abord par rapport aux fonctions du musée. Le musée, d'abord, selon son statut, tout à l'heure, c'est une institution publique à caractère scientifique, technique et culturel. Oui. Donc, l'État est le premier garant du fonctionnement de ce musée à travers des subventions. Mmh. Des subventions que l'État peut donner selon les besoins exprimés par le musée. Mmh. Le musée est doté par un conseil d'administration, donc il se réunit chaque année pour élaborer un budget.
Un budget.
Le budget, certes, moi, je suis d'avis que l'État n'est pas seul responsable du fonctionnement du musée. Mmh. Tous les nationaux doit participer à la participation de ce musée. Au début, comme le disait mon collègue CFM, au début, le musée était gratuit. De 1959 à 1990, l'entrée était gratuite. Et moi, on a dit il faut demander aux gens de contribuer au fonctionnement du musée.
Notamment,
tout comme les gens payent le football, tout comme, donc pourquoi ne pas aussi financer, voilà, on a introduit maintenant les trucs de tarification des visites payées, pour augmenter maintenant les capacités du musée en matière de fonctionnement.
Et les tarifications, en tout cas, qui sont aussi
symboliques, conformément maintenant au moins de la population. Quand vous prenez 100 francs pour un enfant, l'enfant 200 francs, et alors qu'on demande 1500 pour les touristes. C'est avec tous ces moyens maintenant, selon le rythme maintenant de la subvention de l'État, qu'on parvient à faire fonctionner le musée, quelles que soient les difficultés.
Le musée aujourd'hui a perdu, en tout cas, beaucoup de certaines de ses richesses, notamment pour ce qui concerne les zoos, pour ce qui concerne les animaux.
Moi, je t'ai dit une chose. Tout à l'heure, je disais, si les gens, le public dit que le musée est pauvre aujourd'hui, c'est parce que tout simplement cette faune a disparu. Elle a disparu par vieillesse, elle a disparu aussi par, si vous voulez, les renforcements de capacités pour multiplier la ration alimentaire. Tout à fait. De 73, de par les temps, le musée peut aller jusqu'à 1500 espèces, aujourd'hui à 71. Pourquoi? Parce que quand vous prenez au plan environnemental, et même la faune au niveau de nos brousses a disparu. Parce que tout simplement, la biodiversité a changé, parce que tout simplement, l'habitat est détruit. Donc, le musée fait un effort pour quand même aller des fois demander à travers les copains de la sous-région pour amener les animaux. Si aujourd'hui, on parvient à reconstituer les cheptels du musée, les gens vont dire que le musée s'est réveillé. Moi, je sais que je viens d'arriver, il n'y a même pas de mois, mais j'ai procédé à des acquisitions de 4 espèces nouvelles que j'ai ajoutées. Parce que les grands projets sont importants, mais il faut aller par les micro-réalisations en fonction du problème que vous disposez.
Alors, quelles sont les principales difficultés auxquelles le musée national est confronté?
D'abord, à la plupart, c'est-à-dire de tous les musées africains, les difficultés sont communes. Et quand vous partez de l'historique du musée, la plupart du musée, il n'y a pas... En fait, rares sont les musées qui ont hérité des clés de là où ils sont logés. Donc, les difficultés ont commencé par là.
D'abord,
sites même. Mais nous, Dieu merci, tous les trucs qui sont là, c'est des choses qui sont conçues par l'État. Mais ailleurs, c'était des bâtiments abandonnés, tels que les couvents, tant que des maisons hantées.
Alors, pour le cas du musée, cette difficulté ne se pose pas. Cette question de site ne se pose pas.
Oui, le problème du site ne se pose pas. Maintenant, c'est au problème du financement.
Financement.
Lorsque vous rassemblez, n'est-ce pas, et plus de 150 objets, de 150 animaux qui sont là en permanence, qu'il faut nourrir. Ça, il faut un budget. Il faut un budget permanent.
Et des nourritures qui ne sont pas communes, qui ne sont pas semblables.
Oui, qui sont pas communes, parce que vous avez
des carnivores, vous avez
des granivores, vous avez même la outarde qui ne mange que les insectes. Donc, il faut chaque jour, journellement, il faut répondre à ces besoins alimentaires pour ces animaux qui sont là. Ils n'ont pas demandé de venir. Maintenant, on va faire un essai. De le donner sécurité.
Parce qu'autrement, ce sera une prison pour les animaux.
Oui, tout à fait. Mais tout à l'heure, comme vous disiez, les difficultés, et je ne sais pas si on arrive à ça, quand vous voyez le truc du confinement. Nous, déjà, les animaux, c'est confinement dans confinement. Déjà, ils sont enfermés et puis il y a un problème d'alimentation. On était obligé maintenant de demander à la hiérarchie de laisser les gens ouvrir le musée au moins pour quelques heures. Avec les mêmes recettes, c'est avec ça qu'on peut aller, en fait, payer la nourriture pour ces animaux. Parce qu'on ne peut pas attendre. Reprendre nos dédales au niveau du ministère des Affaires du Trésor pour demander de l'argent et venir payer ces armes. Ça, c'est journalement. Les musées, c'est comme un hôpital. C'est comme un hôpital.
Est-ce qu'on peut avoir une idée, par exemple, du nombre de jars de nourriture que vous êtes tenu de fournir chaque jour?
Bon, moi, je
de la viande pour les lions.
Quand je vous dis, par exemple, quand je vous dis que l'hippopotame, d'abord, je compte pas l'hippopotame, il lui faut au moins 2 charrettes de bourgou par jour. Quand vous verrez, par exemple, les ânes, les lions, il faut abattre 2 à 3 ânes par jour. Maintenant, quand on est confronté à la difficulté, on peut maintenant faire un jour sur deux. Si normalement, quand vous voyez la capacité, c'est-à-dire la viande, le son, les grains, les insectes, et ça, c'est des choses qu'il faut charger tous les jours. C'est inestable. Ouais. Les OP consomment plus de 80% de notre subvention nationale.
Et là, vous achetez, vous déboursez de l'argent pour acheter toutes ces nourritures,
cas, choses,
ou bien vous vous approvisionnez auprès de particuliers.
Il y a des choses qu'il faut acheter tous les jours. Quand vous voyez, par exemple, les singes qui mangent des légumes, il faut les payer tous les jours. Quand vous voyez, par exemple, le crocodile qui a besoin de fœtus, il faut aller aux abattoirs. C'est-à-dire, il faut du frais. Maintenant, par rapport aux animaux tels que les vaches, on peut faire un stock de grains. Les fournisseurs déposent et tout. Maintenant, ils peuvent être payés quand la dispense va rentrer.
Et pour la viande?
Pour la viande, c'est tous les jours. Et heureusement qu'on a en fait la contribution des abattoirs, des hôtels, qui, à la note demande maintenant, ils nous aident. Oui. Ou même, des fois, on fait recours à des cadavres au niveau des marchés, des bétails, pour pouvoir nourrir ces animaux. Parce que l'animal, lui, n'entend pas.
Oui.
Il n'entend pas qu'il y ait un bon qui soit signé au trésor. Il faut qu'il donne sa nourriture chaque jour.
Oui. Et en dehors de ces difficultés, est-ce qu'il y a une autre préoccupation qui vous tient à cœur, monsieur le directeur?
En fait, les préoccupations en fait, qui nous tiennent à cœur, c'est surtout en fait, l'insuffisance de la subvention. Parce que le musée, c'est vrai, aujourd'hui, on est une institution quand même à caractère scientifique, mais la subvention, en fait, comme vous savez, à l'image de toutes les nations, ne suffit pas en fait pour ces charges-là.
Est-ce qu'il y a des objets aujourd'hui dont vous avez des difficultés à assurer leur conservation?
Bon, la conservation, tous les objets organiques, c'est-à-dire les objets qui viennent de la matière organique, ils ont des difficultés pour être conservés. Quand vous voyez, par exemple, du bois, quand vous avez du cuir, et compte tenu des conditions climatiques, l'idéal serait que, bon, même certains objets, c'est vrai, on est en Afrique, mais ailleurs, même les objets sont climatisés, dans ça, ils sont. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. L'objet, une fois qu'il est amené au musée, c'est pour augmenter sa durée de vie. Oh, oui. Donc, c'est qu'on ne s'occupe pas de l'entretien. Et avec toutes les intempéries, il peut s'abîmer.
Alors, monsieur, nous allons voir avec le directeur du musée régional des Zenders pour nous dire rapidement aussi les difficultés auxquelles le musée régional de Zenders fait face.
Les difficultés sont générales. C'est lié au dysfonctionnement du musée à l'heure actuelle, qui est lié aux travaux de réhabilitation qui ne sont pas terminés. C'est là notre cri de cœur. Ouais, nous disposons d'une riche collection qui a été renforcée l'année dernière. L'État nous a fait une subvention qui nous a permis en tout cas de disposer d'une nouvelle collection que nous souhaitons exposer, présenter un nouveau visage du musée régional. Et dommage que les travaux maintenant sont aux arrêts. C'est là notre cri de cœur. C'est là notre première difficulté.
Des travaux de construction du site.
Les travaux, les chantiers sont aux arrêts. Rien ne bouge. Donc, vous voyez, ça crée un dysfonctionnement. On a les collections qui sont entassées. Au lieu que ce soit exposé au public, un musée vivant que nous avons rêvé d'obtenir. Et dommage, maintenant, nous sommes dans une situation de dysfonctionnement.
Est-ce que déjà des risques d'abîmer ou de dégradation de certains objets ou de certaines matières?
Bon, nous veillons à l'entretien au quotidien. C'est un magasin qui est un peu spacieux, aéré, et puis on dépoussière de temps en temps. Mais on a besoin d'espace parce que les objets d'art ne sont pas faits pour conserver dans un magasin. C'est pour que ce soit présenté au large public. Et on a besoin quand même de voir un musée vivant avec des fréquentations permanentes d'un public, surtout les tout petits qui ont envie de venir voir les objets, de venir voir leur histoire. Ouais, on a un chantier aussi plein de choses pour valoriser nos traditions culturelles spécifiques, les traditions populaires spécifiques à Zenders, telles que le faka, que vous ne connaissez pas, ou bien que vous connaissez peu, telles que le dembe, la boxe traditionnelle. Ça, nous voulons disposer de tous ces éléments audiovisuels, en tout cas pour montrer, diversifier les missions même destinées au musée, ouais, qui sont assignées au musée. Ouais.
Alors, notre préoccupation vous tient à cœur, monsieur le directeur?
Ouais, notre préoccupation, c'est de voir reprendre les travaux de réhabilitation pour que vraiment le pavillon puisse retrouver sa lettre de noblesse. Ouais. C'est ça.
Bien.
On était opérationnel, on était visible. Vraiment, maintenant, vraiment, c'est l'étouffement total. C'est comme si le musée n'a jamais existé. Okay, les fréquentations permanentes dont nous voulons maintenant sont vraiment aux arrêts. Pas de fréquentation. Le public ne peut pas avoir accès au musée. Right?
Nous revenons au studio pour terminer avec le directeur du Centre de formation et de promotion musicale, M. Mahamad Lawali Garba. Alors, quelles sont les difficultés du musée des instruments de musique traditionnelle du CFM Taïa? Ou bien tout va bien?
Mais à l'image du pays. J'ai dit ceci, nous ne sommes un service déconcentré du ministère, nous sommes un service annexe du ministère. Oui. Nous dépendons du ministère.
Oui. Donc, le ministère de la Renaissance culturelle.
Exactement. Donc, aussi, en termes de difficultés, oui. C'est les difficultés de l'administratif que tout le monde connaît aujourd'hui. Mais malgré, nous faisons beaucoup d'efforts pour entretenir parce que nous nourrissons très peu nos collections, pas comme au musée national.
Oui.
Parce que nous aussi, nous nourrissons nos instruments.
Oui.
Ah oui, il y a des instruments sur lesquels il faut mettre de l'huile d'arachide pour les contenir. Donc j'ai dit ceci, nous n'avons pas de difficultés majeures en ce sens. C'est des difficultés qui sont des difficultés de l'heure liées à toutes nos administrations. Mais nos maigres recettes nous permettent souvent de résoudre pas mal de problèmes.
Est-ce qu'il ne se pose pas un problème de personnel ayant la charge pour en tout cas qui chargé de faire fonctionner ces musées?
C'est comme dans toutes les administrations du Niger, il y a un manque de personnel, bien sûr. Parce que souvent, nous sommes obligés de faire appel à des bénévoles ou bien à des contractuels. Vous comprenez? C'est ce qu'il faut dire à travers cela. En fait, nous, la gestion dont nous faisons de notre musée, comme je vous l'ai dit, nous ne sommes pas comme les autres musées.
Oui.
Nous sommes un musée spécialisé et nous sommes destinés principalement aux chercheurs,
oui.
aux étudiants,
oui.
aux adultes qui sont avertis et surtout aux jeunes.
Oui.
J'insiste sur l'aspect jeune parce que
oui.
l'approche oui. de l'apprentissage de l'art doit se faire au plus jeune âge.
Oui.
Puisque cette mise en contact favorise des virus de l'humiliation sur l'enfant. Et c'est vrai, on ne peut pas quantifier d'une manière, on ne peut pas évaluer de manière quantitative les degrés de renforcement des capacités de l'enfant par rapport à l'art.
Justement, à ce sujet, monsieur le directeur, certains instruments de musique traditionnelle, de plus en plus, n'ont plus d'héritier. Donc, ils risquent juste d'être là, le matériel risque juste d'être là sans personne capable de les jouer ou de reproduire ce genre de musique.
Vous pouvez m'en citer.
Si je ne me trompe, c'est une préoccupation.
Comme je disais, je reviens. C'est une chose qu'il faut reconnaître. Il faut rendre hommage à Maman Garba, au docteur Maman Garba, qui, par sa détermination et son engagement, d'une manière pratique et technique, a mis en œuvre un véritable plan de sauvegarde d'instruments.
Yes,
qui a donné naissance à la création de ces musées. Et bien qu'il, malgré tous ces efforts-là, tout le monde n'a pas été touché, eu égard à la densité, à l'immensité de notre patrimoine culturel, riche patrimoine culturel. Et ceci étant, nous, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est vrai, comme vous l'avez dit, le constat est là aujourd'hui et très peu de jeunes sont intéressés à la pratique instrumentale de leurs parents. Vous savez pourquoi?
Non.
Parce que les jeunes ont constaté que l'art ne nourrit pas leurs parents. Les parents qui jouent les kalangos aujourd'hui, ils ont des difficultés de courir des mariages en baptême pour avoir de quoi nourrir sa famille. Vous pensez que l'enfant, lui, va accepter de faire la même chose que son père?
Alors,
dans le monde actuel,
est-ce qu'on pense déjà à des solutions?
Excusez-moi, bien sûr, c'est là où je vais en venir. Oui. Parce que si nous ne faisons pas attention, nous risquerons fort d'importer les joueurs de nos instruments d'ailleurs. C'est pour cela que dans notre démarche, nous avons initié une stratégie. Parce que nous sommes un centre de formation. La formation, elle ne concerne pas uniquement la musique moderne, elle concerne la musique traditionnelle. Et qui dit formation en musique traditionnelle? Il faut la faire à travers un atelier. C'est pour cela que nous avons renforcé et nous sommes en train de faire revivifier l'atelier de lutherie.
Okay.
L'atelier de lutherie, c'est l'atelier de fabrication d'instruments de musique traditionnelle. Et à travers cette fabrication, initier les jeunes qui sont intéressés par la pratique instrumentale.
Pour la sauvegarde justement de ce patrimoine musical nigérien, est-ce que vous pensez qu'en dehors de ces 150 instruments dont vous avez parlé, est-ce qu'il y a aujourd'hui d'autres instruments qui doivent être sauvegardés ou qui doivent être dans ce musée?
J'ai dit malgré tous les efforts du docteur Maman Garba, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites. C'est vrai, il s'est beaucoup investi. Et c'est pour cela que nous sommes dans une logique de recherche, de voir comment est-ce que nous pouvons récupérer certains jeux traditionnels des jeunes, certains sons sonores, certains instruments qui sont en voie de disparition ou qui sont disparus carrément, qui n'existent pas sur les plans pratiques, qu'on ne voit pas. Il y en a plein. Il y en a plein dans ces pays.
Bien, nous sommes,
c'est notre mission de faire des recherches et de sauvegarder ces patrimoines.
Nous sommes pratiquement à la fin, monsieur le directeur. À votre avis, quelles sont aujourd'hui les mesures dont, en tout cas, vous avez besoin à court, moyen et long terme pour rendre davantage attrayant ce musée dont vous avez la charge, le musée des instruments de musique traditionnelle?
Très bien. Nous, ce que nous voulons, un renforcement des capacités, il faut qu'il y ait un personnel adéquat par rapport au musée d'instruments de musique, puisque c'est un musée où nous avons un seul chef de département, qui est chef de département musée, qui est guide, qui est formateur. Mais nous pensons qu'avec la mise en place de l'atelier de lutherie dont nous sommes en voie de mettre en œuvre, ça va compenser certaines failles. Comme je disais, l'atelier de lutherie, c'est l'atelier de fabrication et d'apprentissage des instruments traditionnels.
Aux jeunes.
Bien. Et à tous ceux qui le veulent aussi. Pourquoi? Tous ceux qui le veulent. Nous sommes ouverts à tout le monde, aux chercheurs, aux étudiants, aux jeunes, aux adultes.
Bien. Ouais. Monsieur le directeur du musée régional des Andes, de quoi avez-vous besoin? Je sais que ce qui vous tient à cœur, c'est vraiment la reprise des travaux.
La réhabilitation de ce musée, c'est ça qui nous préoccupe. C'est ça notre cri de cœur, comme de tout temps. Ouais. Si une fois que ce serait les travaux reprennent, en tout cas, ce serait une bouffée d'oxygène pour nous. Voilà, vraiment, c'est triste là où nous sommes. On n'a pas de crédit de fonctionnement. Il nous manque du personnel. Je suis seul. Ouais, ça aussi, c'est vraiment une situation très difficile à gérer. Étant seul, ouais, c'est difficile quand même de travailler. Ouais, ça me met mal à l'aise. Hein.
Et vous, monsieur, nous revenons en studio. Et vous, monsieur Khaladou Maman, directeur du musée national de Boubouhama, de quoi avez-vous besoin aujourd'hui
par rapport à un plan de redressement, c'est-à-dire le musée aussi a un certain nombre de programmes de réhabilitation. Premièrement, j'ai dit par rapport à ces eaux, nous avons élaboré en fait un certain nombre de programmes parce qu'il faut reconstruire ces animaux-là. Tant qu'il n'y a pas les animaux, les gens, ils vont dire toujours qu'il n'y a rien au musée. Oui. Donc, nous avons élaboré. Et dans le cadre de la coopération Sud-Sud avec le Nigeria, à travers les échanges, pour qu'il y ait des mammifères qui ont disparu à travers des échanges ou l'achat direct, qu'on arrive à reconstituer et occuper les cases qui sont vides. Maintenant, par rapport à nos besoins, par rapport en personnel, parce que je vous dis, aujourd'hui, sur les 56 agents du musée, 29 sont contractuels. Il n'y a que 7 cadres, et bientôt, il y a encore 4 qui vont porter à la retraite. Donc, c'est de penser en fait à un recrutement. Vraiment des agents de l'État qui sont chargés d'animer ce musée-là.
Et par rapport à la nourriture des animaux?
Par rapport à la nourriture des animaux, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, dans le cadre de plan de sauvegarde, nous avons diversifié en fait les trucs avec nos partenaires. J'ai dit, l'entretien du musée ne s'arrête pas seulement au moins de l'État, mais il faut aussi penser aux bonnes volontés. C'est ce qui fait qu'on a eu, à travers le ministre de la Santé et de l'Amélioration sociale, approché des services comme l'hôtel Gawi, qui nous fournit maintenant des restes d'aliments. Nous avons également approché les grands hôtels, les marchés de bétail, qui, des jours sur quatre, on nous envoie des animaux réformés ou morts.
Et donc, vous avez besoin davantage du partenariat et de la contribution
pour renforcer
d'acteurs comme ces gens
de la subvention de l'État, vraiment parvenir à ces choses.
Merci beaucoup à tous. Nous sommes au terme du forum d'aujourd'hui qui portait sur les musées du Niger, défis et perspectives. Nous avons découvert ensemble toutes ces richesses culturelles, ethniques que regorgent ces musées du Niger. Donc, le musée national Boubouhama, le musée des instruments traditionnels de musique du CFM Taïa et le musée régional de Zender. On a entendu les difficultés, en tout cas pratiquement à quelques degrés près, les difficultés sont les mêmes, des difficultés d'ordre matériel, financier ou d'ordre en tout cas humain. Les responsables de musée, en tout cas, appellent à la contribution des uns et des autres, des bonnes volontés de l'État qui doit faire, en tout cas, fournir davantage d'efforts, même s'il fait déjà, pour la conservation de ses biens, de ses patrimoines culturels du Niger. Merci à tous. Nous étions en compagnie de Haladou Maman, directeur du Musée national Boubouhama de Niamey, Monsieur Mahamane Lawali Garba, qui est directeur du Centre de formation et de promotion musicale CFPM Taya, et Mahamane Sani Abdou, directeur du Musée régional de Zender. Je suis Alassane Kouzi Mahamadou pour la présentation de cette émission. Le volet technique a été assuré par Hussein Issa et la régie vidéo assurée par Al-Mustapha Ayouba.